Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima. Le couple royal belge est arrivé cet avant-midi à Lubumbashi, accueilli par le gouverneur de province. Son agenda prévoit entre autres une visite à l'université de Lubumbashi, Inilou. Créée par le gouvernement belge il y a plus de 60 ans, quel est son état en séjour et comment se porte la coopération entre l'Inilou et les universités belges? Les détails dans ce journal avec Jean Gadou. Le Sénat déterminé à purger la seconde lecture de la loi électorale avant la fin de la session de mars qui intervient le 15 juin prochain. Le président de la PAJ de la Chambre haute promet la présentation de cette loi à la plénière de dimanche prochain. Vous écouterez le sénateur Jean Bakomito dans cette édition du journal. Enfin, nous recevons dans cette édition Madame Emerance Bilaou, présidente du conseil d'administration de la MIFA à Kananga. Elle nous parlera de cette mutuelle qui est une microbanque de proximité créée dans le but de favoriser l'inclusion financière et fournir des services financiers aux femmes à faible revenu. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le couple royal belge vient d'arriver à Lubumbashi, accueilli par le gouverneur de province. Le roi Philippe et la reine Mathilde vont mener plusieurs activités, dont la rencontre avec les étudiants de l'université de Lubumbashi. En effet, cette université a été créée par le gouvernement belge. Plus de 60 ans après, dans quel état se trouve l'université de Lubumbashi et comment se porte la coopération entre l'INILU et les universités belges? Jean Gandou.
L'université de Lubumbashi était créée en 1955 sous le nom de l'université officielle du Congo, Rwanda ou Burundi par l'université libre de Bruxelles. Elle a ouvert ses portes une année après. En 1960, elle est devenue l'université d'État d'Elisabethville sous la tutelle de l'université de Liège et en 63, elle portera le nom de l'université officielle du Congo. Avec la zaïrianisation, elle s'appellera Université nationale du Zaïre et deviendra plus tard en 1981 université de Lubumbashi. À sa création, sa capacité d'accueil était d'environ 3000 étudiants. À ce jour, elle en compte plus de 30 000. En dehors des facultés laissées par la Belgique, cette université en a créé d'autres, ce qui fait un total d'une dizaine. À cela s'ajoutent 4 écoles supérieures et plusieurs centres de recherche. La Belgique, à travers certaines universités, et l'UNILU continuent leur coopération. C'est ainsi que certains professeurs belges viennent à Lubumbashi dispenser les enseignements en polytechnique, en agronomie, en architecture et autres. L'UNILU envoie à son tour certains professeurs dans les universités belges. À noter aussi qu'à la faveur de la coopération avec la Belgique, 178 professeurs de l'UNILU ont déjà soutenu leur thèse. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Pendant ce temps, Gershom Kaebe, acteur politique congolais vivant aux États-Unis, salue la disponibilité de la Belgique à venir en aide à la RDC pour garantir son intégrité territoriale et pacifier l'est du pays. Il a dit dans une déclaration ce vendredi à Radio Kapi. Il estime cependant que cette aide sera concrète si la Belgique renforce la formation des FARDC et dote l'armée congolaise d'un armement moderne pour lui permettre de bien se défendre. On écoute Gershom Kaebe, joint par Alain Irung.
C'est depuis 1996 que la République démocratique du Congo est en guerre. Dès lors, l'Est du pays n'a jamais connu la paix. Cela fait 26 ans. C'est beaucoup. Il est temps que le gouvernement congolais prenne ses responsabilités pour mettre fin définitivement à cette guerre et imposer la paix sur toute l'étendue de la République. Si la Belgique veut nous aider, ça devrait être dans le sens de la formation de l'armée et de son équipement. Obtenir la condamnation du Rwanda par la communauté internationale ou par l'Union européenne ne suffit pas. Nous avons besoin des actions concrètes. C'est-à-dire, nous avons besoin d'une armée équipée avec des armes pouvant dissuader l'ennemi.
Par ailleurs, Gershom Kaebe appelle les autorités à libérer toutes les personnes arrêtées pour avoir manifesté contre l'état de siège. Il estime que cela sera aussi un signal fort envoyé à la communauté internationale dans le cadre de la promotion du respect des droits de l'homme avant de solliciter un appui technique et technologique pour la défense du pays. Le Sénat s'est dit déterminé à doter les pays de la loi électorale avant la fin de la session de mars qui intervient le 15 juin prochain, malgré qu'il déplore le fait que cette loi lui a été transmise en retard par l'Assemblée nationale pour examen en seconde lecture, violant ainsi les articles 124 et 125 de la Constitution. Au cours de l'ouverture des travaux de la commission PAJ, son président Jean Bakomito a promis de travailler d'arrache-pied pour terminer cette mission dans les délais leur impartis et le présenter à la plénière son rapport dimanche prochain. Le sénateur Jean Bakomito est au micro de Michel Kifindangwe.
On nous a donné 2 jours pour recevoir les amendements. Nous en sommes là, nous attendons les amendements qui sont déjà déposés par les collègues. En attendant, nous sommes quand même réunis. Question de prendre contact et de préparer, n'est-ce pas, la manière dont le travail va se dérouler. Et vous avez vu, tous les membres de la PAJ ou la quasi-totalité étaient là. Question de demander aux uns aux autres de se disponibiliser parce que le temps qui nous est imparti, il est vraiment minime. Ça va demander un peu de sacrifice. Nous allons essayer de travailler d'arrache-pied. C'est vrai que c'est une loi qui est très attendue, mais il y a également les délais. D'ici les 15, nous devons en principe aller en vacances. Donc l'État nous est compté et c'est pas impossible qu'on ait également la paritaire. Donc il faut voir avec tout ça, mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur le travail et apporter à la plénière le rapport qui est attendu de nous.
Pendant ce temps, le président de l'Assemblée nationale juge urgente l'adhésion de la RDC à la communauté d'Afrique de l'Est pour, selon lui, combattre l'ennemi de l'intérieur et de l'extérieur. Dans sa mise au point au cours de la plénière de ce jeudi, Christophe Mbosso a encouragé les députés à voter à l'unanimité les 3 projets de loi de ratification présentés et défendus par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Pour Christophe Mbosso, la RDC doit entrer dans toutes les structures avec l'ambition de régler définitivement la question de la sécurité et de la paix. Il ne faut pas avoir peur de l'ennemi. Michel Kifinangoy.
Dès l'ouverture de la séance, le président de l'Assemblée nationale s'est montré déterminé à faire passer les 3 projets de loi soumis par le gouvernement. Pour le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ces lois de ratification sont d'une importance capitale pour la RDC. Christophe Lutundula.
Ils permettent à la RDC d'appartenir à une communauté des États, des pays voisins, de tirer le bénéfice de sa position géographique, de ses potentialités économiques, par une optimisation de leur exploitation.
Face aux députés qui avancent l'agression rwandaise comme argument pour bloquer l'adhésion de la RDC à la CAE, le président Christophe Mbosso répond.
Le Congo est le seul pays qui a 9 voisins au monde et nous sommes liés pour la défense de l'intérêt de notre pays, de toutes les organisations. L'État qui nous agresse, nous lui préférons le droit.
À la suite de la motion de procédure de Jean-Baudouin Maillot, les députés ont voté sans débat ce projet de loi autorisant la ratification du traité pour l'établissement de la CAE, celui de l'accord général de coopération entre la RDC et l'Arabie Saoudite, ainsi que celui de l'accord de coopération technique et économique dans le domaine des investissements d'infrastructures entre le Qatar et la RDC.
Sud Kivu, un café politique a été organisé ce jeudi au quartier général de la MONUSCO Bukavu. Activité organisée par la section des affaires politiques autour des leaders politiques de Bukavu avec la CENI. L'objectif principal est de canaliser adéquatement les postures politiques antagonistes défendues par différents partis politiques. Les femmes politiques du Sud Kivu, elles, proposent plutôt la révision de la loi électorale pour favoriser leur représentativité. Rachel Kessembango.
Il était d'abord important de donner un espace à la CENI afin de fournir une information vraie et actualisée aux acteurs politiques concernant le processus électoral en RDC. Gaudens Maheshe, secrétaire exécutif de la CENI au Sud Kivu.
La commission électorale trouve qu'il faudrait montrer aux femmes leurs responsabilités à pouvoir jouer sur leur rôle afin de renforcer leur participation à partir des partis politiques, qu'elles aient un lobbying de pression sur l'Assemblée nationale.
En ce qui concerne la représentativité des femmes aux échéances électorales, celles présentes à ce café politique ont proposé la révision de la loi électorale afin de favoriser la participation politique des femmes. Nathalie Nakabanda, membre du parti Burek.
La loi électorale telle qu'elle a été proposée ne favorise pas la participation politique des femmes au scrutin de 2023. Les femmes politiques du Sud Kivu viennent de prendre la décision de proposer au président de la République des éléments qui vont permettre à ce que la participation effective et active de la femme soit prise en considération dans la loi.
Signalons que ces femmes prévoient une autre rencontre la semaine prochaine pour la mise en commun des propositions. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Pendant ce temps, Nord Kivu, après une interruption de 2 jours, la formation des opérateurs de saisie de la CENI a repris. Ce vendredi à son 2e jour au chef-lieu du territoire de Masisi. Cette interruption s'explique en raison des tensions consécutives à certains malentendus, indiquent les responsables de la Commission électorale nationale indépendante. Les acteurs politiques du milieu fustigent une sélection qu'ils ont qualifiée de discriminatoire. Bernard Nyangui revient sur cet incident.
Selon le secrétaire exécutif provincial de la CENI en Nord Kivu, une équipe dépêchée depuis hier jeudi au chef-lieu du territoire de Masisi a décompté le problème et a relancé la formation sur la cartographie électorale. Monsieur Hubert Kassiwa précise qu'un total de 67 candidats y participent désormais au lieu des 57 initialement prévus. En début de la semaine, une tension entre communautés ethniques a perturbé ce programme. Certains acteurs politiques du milieu accusaient déjà la CENI d'avoir privilégié une seule communauté ethnique qui, à elle seule, aurait selon eux plus de 40 candidats sélectionnés pour cette formation comme préposé opérateur de saisie. Mais ces allégations ne sont pas confirmées par la CENI qui indique que l'incident serait plutôt parti de mécontentement de ceux qui se trouvaient sur les listes d'attente. L'option a été levée de reprendre tous les 67 candidats préposés et réservistes pour la formation. Il est cependant prévu ce week-end un test d'évaluation finale à l'issue de laquelle seuls 52 devraient être retenus pour ce poste de préposé aux opérations de saisie dans ce territoire, précise la société civile locale. Goma, Bernardin Nyangui, Radio Okapi.
Autre nouvelle, en Ituri, seules 4 aires de santé sur les 10 que compte la zone de santé des Kilos dans les territoires de Djougou sont opérationnelles pour une population d'au moins 50 000 habitants. Selon le médecin-chef de cette zone de santé et les notables du milieu, cela est dû aux multiples cas d'exaction du groupe armé Codeco depuis l'année dernière. Ils se disent confiants au processus de paix initié par le gouvernement pour la restauration de l'autorité de l'État en Ituri. Ezekiel Mouzalia.
Presque toutes les structures sanitaires sont soit fermées, pillées ou incendiées par des groupes armés qui sont actifs depuis 4 ans dans les secteurs de Banyali-Kilo. Selon le président de la communauté Nyali, il s'agit par exemple des centres de santé de Kabakaba, Buhengwe, Buzenzele, Kilo Mission et Bakonde. Vital Tungulo indique que la persistance de l'insécurité dans la zone a entraîné le déplacement de nombreux habitants. D'autres qui sont restés dans la région éprouvent des difficultés pour se faire soigner, ajoute-t-il.
Tous ces centres de santé jusqu'à présent sont d'abord inexistantes. Et il y a là où ces miliciens, ils ont pillé les médicaments, ils ont détruit. Pour l'instant, nous restons seulement avec les centres de santé de référence de Kilo État.
De son côté, le médecin-chef des zones de Kilo déplore l'insuffisance des médicaments dans les structures sanitaires qui sont opérationnelles pour la prise en charge des malades, faute d'appui des partenaires. Justin Lodja.
La grande difficulté, la population ne veut pas subvenir à tous ces besoins, et y compris même la santé. Mais il fallait aussi que les humanitaires puissent nous accompagner aussi pour vraiment d'abord subventionner les soins.
Les autorités sanitaires locales et les notables souhaitent l'aboutissement heureux du processus de paix initié par le gouvernement pour la relance des activités, y compris dans des structures sanitaires. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
En territoire de Nyiragongo, 20 agricultrices ont reçu jeudi des kits maraîchers. C'est dans le cadre du projet CVR dénommé Appui à la réinsertion au métier de 60 femmes et jeunes filles mères survivantes de violences à Sake et Nyiragongo. Projet initié et financé par le Bureau des droits de l'homme de la MONUSCO Goma. Le but est de renforcer les capacités de résilience des femmes par des activités de réinsertion socio-économique à travers l'apprentissage des métiers. Reportage Denise Loukesso.
Ces kits sont constitués des semences de pommes de terre, des houes, des pulvérisateurs, des râteaux, des bottes, des salopettes et bien d'autres produits. Au nom des bénéficiaires, les présidents provinciaux de la communauté Kumu témoignent leur gratitude. Tusi Bikanaba, Deo Gracias.
Le territoire de Nyiragongo, c'est un territoire longtemps meurtri qui continue à être victime de plusieurs violences. Aujourd'hui, la MONUSCO avec COVEFAM viennent de distribuer des intrants agricoles pour que les femmes de Nyiragongo puissent s'auto-prendre en charge, avoir des ressources qui peuvent les aider à surmonter les difficultés auxquelles elles sont soumises. Nous disons merci à la MONUSCO.
La coordonnatrice du BCNUDH de la MONUSCO à Goma estime que ce projet pourra beaucoup changer dans le mental d'une femme qui a subi des violences. Madame Astumbo.
Une femme qui, par une activité, oublie un peu ce qu'elle a subi et qu'elle puisse pouvoir travailler encore. Si une femme est indépendante, peut subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Pour nous, on a pu faire un grand travail d'accompagnement.
Signalons que ce projet de 5 mois est exécuté par l'ONG locale COFEVAM. Goma, Denise Louquet sur Radio Capi.
Actualité internationale.
Au Tchad, le président du Conseil militaire de transition s'est exprimé jeudi soir sur les affrontements qui ont causé la mort d'une centaine de personnes dans la nuit du 23 au 24 mai sur le site aurifère de Kouribougoudi dans l'extrême nord du pays à la frontière libyenne. Dans un entretien diffusé sur les chaînes publiques, Mahamat Idriss Déby a déclaré que ce qui s'est passé et à Kouribougoudi est plus grave qu'un simple conflit intercommunautaire, avant d'ajouter que l'État tchadien prendra ses responsabilités.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition du journal Madame Emérance Bilaou, présidente du conseil d'administration de la MIFA. Cette mutuelle est une micro-banque de proximité créée dans le but de favoriser l'inclusion financière et fournit des services financiers aux femmes à faible revenu. À Kanangaou, Espérance Bilaou a accompagné le ministre des Finances. Une première pierre a été posée pour la construction du bâtiment de vente abrité, la MIFA. Dans cet entretien avec François Kadima, elle revient sur ce modèle de coopérative qui, selon elle, vient résoudre les problèmes d'accès des femmes au crédit. Suivez.
Madame Espérance Bilaou, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi une mutuelle financière des femmes africaines?
Le mutuelle financière de femmes africaines et les MC2 mutuelles communautaires de croissance, ce sont des microbanques de proximité. Comment des proximités? Qui veut permettre l'accès au financement aux couches à très faible revenu et permettre en RDC l'inclusion financière réellement proprement dite.
Donc c'est une banque et comment elle s'organise?
En fait, le concept de MIFA et des MC2 est parti du Cameroun et de là, ça s'est propagé dans d'autres pays tels que le Libéria, tels que la Guinée, un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et quand j'en ai pris conscience de ces modèles, je suis allé moi-même comprendre le fonctionnement de ces modèles et je suis rentré pour DG Porterai et cette vision en RDC. Pourquoi? Parce que j'ai évolué dans le monde agricole et j'ai vu la pénibilité qu'avaient les femmes et les hommes dans les milieux ruraux et dans les grandes villes à accéder au financement. Et c'est un modèle qui vient vraiment répondre aux besoins de cette couche de population.
Une banque, une coopérative, alors d'où provient l'argent? Comment elle est organisée cette mutuelle?
Les mutuelles financières, le MIFA et les MC2, ce sont de banques de proximité. Nous avons l'agrément de la Banque centrale et nous sommes régis par la loi qui réglemente les coopératives d'épargne et de crédit en RDC. Le fonds de MIFA et des MC2 provient de ses membres et ça veut dire tout membre qui accède à la MIFA, elle est actionnaire à la MIFA. L'argent de la MIFA ne provient pas de l'État. L'argent de la MIFA ne provient pas... Bon, maintenant, nous commençons à avoir des bailleurs parce qu'ils sont intéressés par le modèle. Nous avons maintenant pas mal de bailleurs. Nous avons déjà Afriland Bank qui est notre partenaire technique qui nous accompagne. Nous avons la Robank qui est notre banque d'appui. Nous avons aujourd'hui l'Union africaine. Nous avons l'USAID. Donc nous avons maintenant beaucoup de bailleurs qui sont intéressés par ces modèles. Donc ces modèles, comme je vous ai dit, ce sont des microbanques et l'argent de toutes ces MIFA et MCD proviennent de la collecte de l'épargne de ces membres.
Collecte de l'épargne de ces membres, comment ça se fait? Comment ça se passe? C'est une banque, il y a des parts, comment ça se passe?
Ça commence d'abord par les adhésions. Nous avons ce qu'on appelle le membre fondateur qui porte l'idée, qui font les sensibilisations et puis le membre commence à adhérer. Nous avons deux catégories de membres. Nous avons le membre actif et nous avons le membre associé. Le membre actif, ce sont ceux-là qui payent les parts sociales, ce sont ceux-là qui ont droit au vote lors des assemblées générales. Les membres associés, on le permet juste d'avoir un compte épargne. Ils ont de restrictions, ça veut dire ils ne peuvent pas avoir les crédits dans cette banque et ne peuvent pas voter. Donc voilà, c'est pour ça que nous encourageons plus le membre actif. Les MIFA et les MCD ne sont pas ouvertes à tout le monde, ne sont ouvertes que aux membres.
Qu'est-ce qui peut rassurer cette femme rurale, cette femme qui a besoin d'avoir accès au crédit, ce qui est différent des autres banques?
Une part est à $1. le droit d'adhésion est à 1 dollar et le fonds de solidarité à 1 dollar. Mais pour être membre actif, il faut avoir un minimum de 10 parts, ça veut dire qu'il faut commencer par 22 dollars. Qu'est-ce qui peut rassurer cette femme-là d'accéder à la MIFA? D'abord, elle-même, elle sera actionnaire. Ça veut dire qu'elle aura droit de demander le compte aux dirigeantes parce que c'est l'Assemblée générale qui va élire les différentes animatrices de différents organes de MIFA. Vous savez bien, aujourd'hui, c'est pour ça que j'aime pas le mot don. Quand on te donne, tu manges, demain, tu te retrouves plus pauvre que ce n'était. Mais là où tu fais un effort de faire sortir même un dollar, tu auras un droit de regard. Tu demanderas des comptes. Donc, cette femme-là, aujourd'hui, je n'aime pas besoin de trop parler. Success story, on a au niveau de Kinshasa, la première MIFA qui s'est mise à Kinshasa il y a une année, dont nous avons eu le privilège d'avoir les chefs de l'État lui-même venir inaugurer parce qu'il tient à ses modèles.
Ce n'est pas de l'arnaque. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui peut rassurer cette femme en termes d'activité économique? Parce que c'est vrai que toutes les femmes qui ont accès au financement ou au crédit, elles mènent les activités dans des problèmes. Comment MIFA, par exemple, compte accompagner cette femme qui d'abord peut se faire membre, avoir accès au crédit et sur terrain évoluer dans les activités?
Je peux vous dire d'abord, il n'y a pas un mauvais crédit. Il y a d'abord une mauvaise planification. Une mauvaise planification est souvent les détournements de l'objet des crédits. Quand vous prenez un crédit et que vous n'avez pas planifié les crédits, ça risque d'être un fardeau. Quand vous prenez un crédit sans comprendre le contenant du contrat qui vous lie à un crédit, ça risque de vous poser problème. C'est pour ça, nos membres, avant de prendre les crédits, nous, d'abord, nous allons la former, lui expliquer qu'est-ce que c'est la différence qu'il y a entre crédit et épargne.
Madame Espérance Belaou, nous vous disons merci.
Je vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.